tout, on commence avec Georges qui est en ligne de Pau après nous avoir envoyé un message internet. Bonsoir Georges.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, moi je suis très clairement, je suis fan d'Alain Prost depuis de nombreuses années. Et vous pensez bien que quand on apprend qu'il retourne à la compétition, c'est vraiment super, donc on se précipite. Alors la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il va profiter de sa notoriété pour nous faire diffuser la télévision, entre autres, plus d'images de sport automobile, c'est-à-dire que bon, la F1, bon, c'est plus intéressant. Et je verrais bien, par exemple, un petit trophée Andros avec Alési et Prost en première ligne, ça donnerait un peu de piquant.
Vous avez une préférence pour une chaîne en particulier, non, globalement?
Non, surtout pas, non.
Je laisse Alain Prost vous répondre.
Une chaîne sans pub, si possible.
Bonsoir. Tout d'abord, ce qui est vrai, c'est que en dehors de la Formule 1, c'est pas facile de voir du sport automobile à la télévision, en tout cas sur des grandes chaînes. Sur certaines chaînes câblées, ça se passe plutôt bien, mais tout le monde n'a pas la chance de le voir. En ce qui concerne le trophée Andros, c'est vrai qu'avec mon arrivée l'année dernière et puis cette année sur un projet beaucoup plus étoffé, on va certainement avoir de bonnes retombées et peut-être même inhabituel pour le trophée. Par contre, téléviser ça, je dirais, en direct, ça se fait, notamment sur Télé Monte Carlo. Sur des grandes chaînes, c'est un peu plus difficile, bien que ce soit très télégénique, pas toujours très facile à comprendre, mais c'est un règlement qui est basé vraiment sur le spectacle. Donc je dirais que j'espère, et l'intérêt, c'est aussi, comme vous l'avez dit, je crois que c'est le plus important, d'attirer dans ces formules, encore une fois spectaculaires, où les pilotes ont la possibilité d'être très proches du public, et bien des gens de renommée internationale, si possible des anciens pilotes de F1 ou d'autres pilotes d'autres disciplines.
Alors d'autres messages, d'autres appels sur le trophée Andros, j'en cite quelques-uns les plus courts. Brigitte à Saint-Brieuc, il y a des femmes aussi qui s'intéressent, elle dit Alain Prost, compte tenu de votre profil et de votre palmarès, à quel défi, elle dit défi singulier ou pluriel, correspond pour vous le trophée Andros? Je cite aussi Alexandre à Tarbes. Après toutes vos victoires, vous auriez pu, comme le font beaucoup de champions dans beaucoup de sports, décider de vivre de vos rentes et de vos succès. Au contraire, vous avez tout misé sur une écurie à la française, et rien que pour ça, et malgré votre gamelle, je vous dis chapeau. Et alors Alexandre en arrive à sa question, il dit, j'ai aussi une question, qu'attendez-vous de cette nouvelle aventure en course sur glace? Et puis dernier exemple, Christophe dans le Vaucluse, que va représenter pour vous cette course sur glace du trophée Andros? Est-ce une expérience radicalement nouvelle, une façon de balayer le passé, ou bien peut-on y voir une sorte de prolongement et de complémentarité avec votre carrière en Formule 1?
Là, je crois que c'est un peu un mélange de tout. C'est-à-dire que c'est au départ c'était une expérience que je voulais tenter, c'était uniquement un essai. Après, bon, j'ai fait 3-4 courses, comme tout le monde a peut-être un peu suivi l'année dernière, qui sont plutôt bien passées sur la fin, puisque j'ai pu en gagner une au Canada. Et puis maintenant, c'est une expérience un peu différente, qui se rapproche un peu plus de ce que j'ai fait pendant 15 ou 20 ans, d'une manière un peu plus professionnelle, bien que le souhait, enfin, le but premier, c'est en même temps aussi de se faire plaisir dans un environnement, une ambiance complètement différente de ce que j'ai pu connaître dans le passé. Mais malgré tout, peu importe la taille du projet, et puis peu importe les budgets, puisqu'on ne parle pas du tout de budget de Formule 1, quand on est passionné, quand on est motivé par un projet, on essaye de faire exactement la même chose. Aujourd'hui, j'ai un plaisir à conduire sur la glace. Pourquoi? Parce que c'est une discipline qui n'était pas du tout destinée au départ. Ça veut dire que c'était une sorte de challenge, c'est un peu un défi. Et c'est la difficulté qui me fait avancer dans ma vie. J'ai toujours voulu essayer des choses difficiles. J'ai toujours eu des expériences, comme on dit, et c'en est une. Et bon, en tout cas, pendant 2 ans, je ferai le trophée sur glace. Ça m'empêchera peut-être pas de faire autre chose à côté pendant l'été. Mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que ça m'a indirectement relancé un petit peu et ça m'a fait découvrir une ambiance et puis le contact des gens et des spectateurs que j'avais quand même complètement oublié.
Alain dans le Vaucluse. En ligne. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir. Convenons qu'Alain est un prénom très sympathique d'ailleurs.
Merci.
Puisqu'il y a 3 Alains en ligne là en ce moment.
Bah oui, excusez-moi. Il faut ce qu'il faut, hein.
Oui.
Fabrice Abgral s'excuse.
Donc l'idée, c'était d'abord de demander un pronostic à Alain Prost. Il a beaucoup piloté pour Renault, il va maintenant piloter pour Toyota sur glace. Alors, à son avis, quel va être le premier de ces deux constructeurs qui va remporter le championnat du monde de Formule 1? Et derrière cette question, il y en avait une autre. Pourquoi est-il aussi important pour des grands constructeurs généralistes de s'impliquer, d'investir à fond dans la Formule 1. Alors qu'à l'évidence, il semblerait que effectivement il y ait une désaffection du public envers ce sport, alors qu'effectivement les grandes marques sportives comme Ferrari se doivent de continuer à participer à ces championnats. Merci.
Alain Prost.
Oui, disons que en ce qui concerne Ferrari, c'est une manière absolue, je dirais, d'avoir une image qui leur permet de vendre des voitures de série. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer une Ferrari sans courir. C'est une condition sine qua non, ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs tout à fait vrai pour d'autres constructeurs de voitures de sport, mais eux, c'est une image tellement liée à la course que c'est obligatoire. Pour les autres constructeurs, c'est vrai que ça peut se discuter pour certains. On considère que la Formule 1 est le pinacle du sport automobile, donc c'est là où il y a le plus de technologie, et on veut montrer au monde entier que la technologie que ce soit de Toyota, de Renault, de Mercedes, BMW, est la meilleure. Le piège, si on peut appeler ça un piège, c'est qu'il n'y a qu'un vainqueur, et que quand on est plusieurs constructeurs en Formule 1, on est obligé d'investir énormément d'argent, même si la rentabilité n'est pas là, parce qu'il ne faut pas rêver. Le retour sur investissement aujourd'hui, avec les spectateurs qui sont moins nombreux, les téléspectateurs aussi, il n'est pas du tout évident, mais c'est un cercle vicieux. On est obligé d'être là, car on peut pas se retirer. Donc c'est un peu, aujourd'hui c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que les audiences ont beaucoup baissé. En ce qui concerne votre première question entre Toyota et Renault, je pense que Renault est mieux armé, en tout cas à court terme, dans la mesure où c'est une équipe qui, avec d'abord associé à Benetton et puis maintenant sous le nom de Renault, ça fait 10 ans exactement qu'ils travaillent ensemble, ce qui est le record en dehors de Ferrari, contrairement à McLaren, à Williams, qui ont eu des partenaires différents depuis 10 ans, alors que Toyota commence uniquement en Formule 1 depuis 2 ans, avec une structure complète, basée en plus en Allemagne, ce qui n'est pas évident, donc ça leur prendra beaucoup plus de temps.
Fabrice Abraham.
Mais pour en revenir aux courses sur glace, Alain, vous avez donc repris l'année dernière, vous avez pris un risque en quelque sorte, parce que sans mauvais jeu de mots, on vous attendait au tournant, on voulait voir un petit peu ce que vous valiez, et puis finalement ça s'est super bien passé, et vous avez même surpris les observateurs par votre faculté d'adaptation, parce que la conduite sur glace, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu.
Non, c'est totalement le contraire. En plus, je me suis toujours attaché pendant des années à ne pas glisser, à essayer d'être le plus efficace sur la piste. Quand on conduit sur le goudron, sur l'asphalte avec une Formule 1, dès qu'on commence à déraper, on perd l'efficacité. Non, c'est vrai que c'était un gros risque, parce que j'ai trouvé ça très sympa, j'avais envie de me faire plaisir, et j'avais envie de ne pas prendre en compte tout ce qui pouvait m'arriver. Il ne pouvait pas m'arriver sincèrement beaucoup plus que ce qui m'est arrivé ces dernières années. Et puis, ça m'a changé un peu ma manière de voir les choses. Ça m'a donné une philosophie beaucoup plus décontractée. J'ai l'impression d'être différent. J'ai l'impression d'avoir passé un cap. Donc, comme briser la glace, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est un peu vrai.
On dit même que vous êtes plus abordable et plus convivial qu'avant. Vous sentez comme ça aussi ?
Oui, mais parce que ce que je disais tout à l'heure, déjà le contact avec les gens, le public, il est extrêmement proche. Et les gens qui viennent vous voir sur ce genre de circuit, ce sont souvent d'ailleurs les gens qui vont supporter pendant des années, sont les vrais fans. C'est d'un naturel qui est incroyable. C'est vrai que quand vous êtes en... Il y a aussi le côté médiatique. Enfin, quand je dis média, c'est pas les mêmes médias, hein. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes contraintes. Vous n'avez pas certains médias qui sont quand même, il faut dire la vérité, un peu dirigés par certains constructeurs ou par certains groupes. Là, ça n'existe pas. C'est vraiment bon enfant, et c'est ce qui m'a plu.
Nicolas, en banlieue parisienne, est en ligne. Bonsoir, Nicolas.
Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Prost.
Bonsoir.
Je voulais déjà savoir pour quelles raisons vous n'étiez pas dirigé vers les courses d'endurance, le style des 24 heures du Mans, ce style d'épreuve qui engage des grands constructeurs qui ont une technologie qui se rapproche de plus en plus de la F1, et pourquoi pas vous en tant que pilote sur une écurie d'usine, genre Audi, Bentley, avez-vous déjà eu des propositions ?
Non, j'ai eu des contacts. Là, je vais vous répondre tout en faisant mettant un petit bémol avec ce que vous avez dit. Il y a eu une période où j'aurais adoré faire les 24 heures du Mans, et malheureusement, j'ai essayé et j'ai pas pu. Bon, j'ai raté l'époque Matra parce que j'étais trop jeune. Après, l'époque Alpine Renault, ils m'ont pas pris. J'avais d'autres pilotes. Et puis après, bon, je pouvais pas non plus à l'époque Peugeot avec la 905 quand ils ont gagné. Ça, c'était les vrais. Les belles époques françaises de vainqueurs au Mans. Après, et si on parle plus de maintenant, vous savez, les constructeurs, il y a pratiquement plus de grands constructeurs avec des belles autos, si ce n'est Bentley et Audi ces dernières années. Il n'y a pas tellement de concurrence et il y a un énorme écart entre des grands constructeurs, en citant ces deux qui sont en fin de compte qu'une seule entité, et puis les autres qui dépensent à peu près entre 10 et 20 fois moins d'argent. Donc il y a pas, c'est pas facile. Moi j'ai toujours refusé de faire Le Mans à une époque où j'avais un peu du mal à partager la voiture avec deux autres pilotes. J'ai eu un ou deux copains qui se sont tués dans des circonstances un peu bizarres au Mans. C'est pas dénué de risques. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de gentleman drivers. J'avais pas l'impression que c'était une course pour moi. Peut-être dans le futur, s'il y a un règlement qui, à mon avis, est beaucoup plus équilibré entre ce qu'on appelle les prototypes et puis les voitures de tourisme. Et là, je serai le premier à dire qu'il faut mettre que des voitures de grand tourisme et non plus des prototypes et que tout le monde soit à égalité. Et là, on verra des belles bagarres entre des Porsche, des Maserati, des Ferrari, des Chrysler, etc. Et ça attirera certainement les constructeurs. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que la technologie, sincèrement, vous pouvez pas vous imaginer l'écart qu'il y a entre une Formule 1 et un prototype de course d'endurance. C'est un monde d'écart, donc il faut quand même relativiser un peu.
Franck, c'est ça, Franck, à Clermont-Ferrand est en ligne, bonsoir.
Oui, bonsoir. Déjà, je voulais féliciter Alain Prost pour les 10 ans de carrière qu'il a fait en F1 où j'ai pu le suivre. Et je voulais lui poser la question suivante concernant les constructeurs, justement. Est-ce que vous ne pensez pas, Alain, que ces constructeurs vivent par la Formule 1 momentanément et que si demain ils arrêtent de s'impliquer en Formule 1, les Williams, McLaren et consorts auront peut-être du mal à continuer à faire ce qu'ils font aujourd'hui.
Vous avez entièrement raison. Je veux dire, à chaque fois que les constructeurs sont venus dans une discipline de sport automobile en masse, hein, je ne parle pas de cycle d'un ou deux constructeurs qui se battent et puis qu'au bout de 3-4 ans ils s'en vont, il y en a un qui revient, là ils sont très nombreux et à chaque fois qu'ils ont été très nombreux dans une discipline, ils l'ont tué. Et je trouve qu'en ce moment c'est un peu trop d'argent, c'est un peu trop, il y a des mesures et c'est vrai que les petites écuries ne peuvent plus vivre aujourd'hui parce que les écarts de budget sont tellement énormes. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. S'il y en a un qui s'en va puis il y en a un autre qui revient un an ou deux ans après, c'est pas très grave. Par contre, si commence à s'arrêter deux, trois ensemble, ça peut être vraiment très très préjudiciable. Les constructeurs, à mon avis, font une erreur, c'est qu'ils pensent tous, ou en tout cas la majorité, qu'il faut déjà éliminer les équipes. On a éliminé les Lotus, les Brabham, les Prost malheureusement, et d'autres beaucoup plus prestigieuses qui ont fait leur réputation dans le passé. Et il faut parler de Renault, de Toyota, de Mercedes, etc. Mais il y a le côté humain qu'à mon avis on a perdu. Au niveau des écuries, comme je le disais, au niveau des pilotes, on a tendance à mettre les pilotes un peu sous les peignoirs, il n'y a plus de caractère, il n'y a plus de charisme. Et ça, je trouve que c'est une erreur fondamentale, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a la vraie désaffection. C'est pas uniquement le fait que les courses sont moins intéressantes, il se passe pas grand chose, et je pense que c'est la faute des grands constructeurs. Il faut absolument revenir à quelque chose de plus naturel et plus humain.
Alors, retour rapidement au trophée Andros, à la fois sur SMS et Internet. Je vais citer Hervé Arène qui dit « Quelles sont les particularités de la Toyota sur laquelle vous allez courir? J'ai lu quelque part que c'était vraiment un prototype sur mesure et que vous avez participé à sa conception. Vrai ou faux ?» ajoute Hervé.
Oui, c'est vrai. Alors, le règlement des courses sur glace, c'est le même règlement que les courses sur piste en ce qui concerne ce qu'on appelle les silhouettes. C'est-à-dire on doit prendre une voiture existante et puis on fait ce qu'on appelle un prototype dans un cadre, dans un règlement extrêmement strict. Donc pas beaucoup de latitude, mais ça a été un projet extrêmement intéressant. Je me suis vraiment motivé du début jusqu'à la fin. C'était très très jouissif de voir cette voiture rouler les premiers tours de roue. On a travaillé vraiment très proche, de manière très proche avec les ingénieurs d'Oreca. Et c'est une voiture qui est un peu, non pas révolutionnaire, mais très élaborée dans ce règlement. Mais je pense aussi que la concurrence aura fait un peu de même. Donc la surprise, on la verra s'il y en a une dans les premières courses.
Hugues de Chaunac, votre ami, oui. Celui qui va diriger l'écurie sur laquelle vous allez participer au trophée Andros, a dit qu'il avait retrouvé chez vous la motivation de la fin des années 70 quand vous étiez en F3 avec lui. Il a retrouvé le Alain Prost des années 78-79. C'est vrai, vous avez la même motivation?
pour moi, j'ai l'impression que chaque fois que j'ai fait une saison de course, c'est exactement la même motivation, la même passion. Et cette année, pour moi, c'est comme si je faisais une autre saison de championnat du monde de Formule 1. La différence, c'est que là, on a pu, avec les ingénieurs, concevoir la voiture qu'on voulait faire depuis le début. Et ça, c'est encore une satisfaction supplémentaire.
Jean-Marie à Paris en ligne. Bonsoir Jean-Marie.
Oui, bonsoir Alain Prost. Deux questions anecdotiques. Il y a une dizaine d'années, à Mont-de-Marsan, vous avez fait un vol sur Mirage. J'ai eu l'occasion de vous croiser au cocktail qui a suivi ce vol. Vous étiez un petit peu pâle. En termes d'émotion par rapport à la Formule 1, quel souvenir vous avez de ce vol sur Mirage? C'est ma première question. Deuxième question, est-ce que la pratique du kart peut améliorer la conduite d'un conducteur normal, lambda? Voilà. Bonsoir et merci de vos réponses.
Bonsoir. Et écoutez, d'abord, si on parle du karting, je pense que tout ce qui touche à la conduite sur quatre roues, je dirais peut-être même sur deux roues, ça donne des sensations, ça donne une habitude, une expérience. Et c'est sincèrement pour les jeunes en pleine période de sécurité routière, et je crois que c'est de toute façon bénéfique. Ça restera toujours positif. En ce qui concerne le Mont-de-Marsan et l'essai sur le Mirage, je m'en rappelle vraiment très très bien. Et c'est marrant que vous parliez de ça aujourd'hui, parce que quand on parlait de différence entre la glace par exemple et la Formule 1, c'est vrai que quand on a touché à la Formule 1, il y a vraiment très très peu de choses qui peuvent vous donner des sensations. Et c'est vrai que la glace vous donne des sensations différentes, parce qu'il y a la glisse, même si c'est à des vitesses très très faibles ou beaucoup plus faibles, ça donne des sensations différentes. Mais j'ai toujours dit que la seule chose qui m'avait procuré des sensations mais incroyables du style de la Formule 1, et peut-être même encore plus, c'est mon essai avec le Mirage, et notamment ce jour-là où on avait fait une simulation de combat avec trois avions, et c'était absolument fabuleux. C'est un de mes meilleurs souvenirs.
Nicolas, en ligne de Pithiviers, est au bout du fil maintenant. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir messieurs et bonsoir Alain Prost. Tout d'abord, bravo pour vos 4 titres de champion du monde et vos 51 victoires. J'avais nourri autant d'espoir quant à votre réussite sur votre équipe Prost. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Et c'est bien dommage. Mais je n'appelais pas pour ça. Je voulais vous demander votre avis quant à la valeur de Michael Schumacher et quant à son statut de champion des champions par rapport à ses 6 titres glanés en Formule 1. Et je sais bien qu'il est difficile parmi les champions de hisser tel ou tel au meilleur niveau, mais par rapport aux années, par rapport à des périodes. Mais je trouve néanmoins que par rapport à vos titres, ceux d'Ayrton Senna ou Niki Lauda ou encore d'autres, Michael Schumacher a bénéficié de conditions peut-être plus paisibles pour obtenir ses 6 titres, qu'il aurait même pu en obtenir un 7e assez facilement en 1999 sans son accident. Est-ce qu'on peut dire que véritablement c'est le champion des champions, et quel est votre sentiment à ce sujet? Merci.
Bonsoir. Mais écoutez, moi je crois que d'abord qu'on peut pas dire le champion des champions, ça n'existe pas. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ce soit dans le sport automobile ou dans d'autres sports, c'est très très difficile de dire celui-là c'est le meilleur de tous les temps, et il a dépassé tout le monde. Alors il y a le problème du palmarès, bien entendu, c'est celui qui a le meilleur palmarès, et de loin aujourd'hui, et ça on ne peut pas lui enlever. C'est, comme je le dis souvent, c'est pas de sa faute si la concurrence était aussi peut-être un peu plus faible. Je suis un peu plus critique de temps en temps sur la manière dont on a aidé Ferrari ces dernières années, quand on avait vraiment besoin de Ferrari il y a 4-5 ans pour être une écurie gagnante, si on avait besoin sur le plan médiatique. Je suis le premier à défendre Michael Schumacher, parce que je crois qu'il a fait aussi tout ce qu'il fallait. Il a pris un risque en allant chez Ferrari. Ça a failli d'ailleurs mal se terminer au bout d'un an, un an et demi. Et je crois qu'il mérite quand même ses performances. Est-ce qu'il mérite les 6 titres? Je ne peux pas juger personnellement. Il a moins de compétition, c'est vrai. Les voitures sont beaucoup plus fiables, sont différentes de celles qu'on a conduites. Donc quand une voiture gagne, eh bien, elle gagne aussi plus souvent, d'où les records de victoires et de titres. Mais je crois que c'est un débat un peu stérile. Ce que je serais tenté de dire, c'est le meilleur de sa génération, il n'y a aucun doute. Après, c'est chacun fait un peu son jugement de manière personnelle.
Romain, Paris en ligne. Bonsoir Romain.
Bonsoir, je vous appelais par rapport à votre fils qui commence en sport automobile cette année.
et j'ai vu que vous êtes orienté vers la filière ELS, et je voulais savoir si vous pensiez vraiment que cette filière pouvait mener à devenir pilote professionnel, ou si comme d'autres anciens pilotes, comme M. Rosberg, qui fait rouler son fils aujourd'hui à l'étranger, ils ont choisi de monter leurs propres écuries pour faire évoluer leur fils. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut, via la filière FFSA aujourd'hui, devenir pilote professionnel?
Alors, dans le cas de mon fils, Nicolas, il a eu un parcours qui est sincèrement, enfin, complètement différent de tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, puisqu'il est parti aux États-Unis faire ses études, et il revient donc à 22 ans, un peu plus tard, avec aucune expérience. Donc pour moi, c'était certainement la meilleure formule. Ce qu'on appelle la filière, c'est plus la formule campus, qui permet à des jeunes de débuter dans une série monotype, où on n'a normalement pas le droit de faire d'essais entre les courses et pas le droit de toucher la voiture, ce qui est un peu restrictif, mais qui permet d'avoir une première expérience. Après, c'est une autre échelle. Dès qu'on passe à la Formule Renault, la Formule 3, comme les fils de Rosberg ou de Piquet, moi j'ai pris le parti de suivre aussi ce que voulait faire Nicolas à un moment, c'est-à-dire le golf, les études, et de ne pas le lancer dans la course automobile. C'est peut-être malheureux, c'est peut-être triste, mais c'est comme ça. Donc c'est aussi des générations, et je peux conseiller à certaines personnes, s'ils voient que leur enfant est très 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 motivé, de commencer plus tôt. Donc il a un cursus un peu différent, et je ne sais pas ce qu'on va faire encore pour la suite, mais je vais certainement l'aider pour l'année prochaine pour qu'il continue encore dans les meilleures conditions.
Fabrice?
Oui, Alain, les chiens ne font pas du chat. Mm-hmm. Hein? Nicolas, votre fils, est pilote. Le fils de Keke Rosberg aussi. Le fils de Nelson Piquet aussi. Mm-hmm. Vous les poussez, je ne sais pas si vous en avez discuté avec Nelson Piquet ou Keke Rosberg, vous les avez poussés, ou comment ça s'est passé exactement
encore une fois, moi j'ai toujours eu peur pour mon fils qu'il fasse de la course automobile. Pas uniquement une peur physique de l'accident, c'est vraiment une peur qu'il soit malheureux dans un milieu que... Moi j'ai adoré tout le côté technique, j'ai adoré la passion de la course, et j'ai toujours eu un petit a priori, comme maintenant tout le monde le sait, hein, du milieu en lui-même, du côté des médias, j'ai toujours eu un peu ce problème. Et j'avais pas spécialement envie que Nicolas subisse la même chose. Et comme j'ai pas senti une motivation extrêmement forte à ses débuts, il a fait beaucoup de ski, il a fait beaucoup de golf, il a fait de très bonnes études. A contrario, je connais bien Nelson, bien sûr, et Keke. Ils ont le fils de Keke courait en karting à l'âge de 8 ans. Il doit avoir 20 ans aujourd'hui, ça fait 12 ans ou 13 ans qu'il court, et Keke, il a arrêté pratiquement de travailler pour suivre. Donc c'est deux schémas différents, tant mieux s'il réussit. Il a certainement beaucoup plus de chances de réussir que Nicolas.
Imaginez, 30 secondes, hein, sur la grille de départ d'un Grand Prix de F1, Rosberg, Piquet et Prost, ce sera un sacré raccourci. Hein.
Oui.
Encore un Alain dans Lyon. Bonsoir Alain.
Bonsoir à tous les Alains. Voilà, monsieur Prost, je n'ai pas la télé, je ne regarde pas les courses automobiles, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Seulement une question que je me pose, que j'ai posée au standard. Ne pensez-vous pas que de montrer les courses automobiles à la télé en particulier, incite les jeunes à rouler vite? Et depuis le début de l'émission, je vous ai entendu parler de plaisir, de sensation, de... Bon, évidemment, des choses que les jeunes recherchent. Ne pensez-vous pas que les courses automobiles ont une part de responsabilité dans l'accidentologie qu'on trouve sur la route de France actuellement?
Écoutez, c'est une très bonne question. Je ne pense pas, hein, parce que, sincèrement, il faudrait peut-être poser cette question à des gens beaucoup plus compétents que moi. Je pense que c'est... Il faut faire très très attention que dans la vie, on a besoin d'un équilibre. On a besoin d'un équilibre, les gens ont besoin de rêver, ils ont besoin d'avoir du plaisir. Je parle de mon plaisir, je ne parle pas du plaisir que les jeunes ont de conduire sur la route. Les jeunes conduisent vite sur la route parce qu'il y a peut-être aussi d'autres artifices, il y a peut-être l'alcool dans certains cas, il y a peut-être les drogues, il y a peut-être... On peut parler de tout ça, de sécurité routière. Je ne pense pas sincèrement que la course automobile, elle est vue comme un divertissement, comme un spectacle. La preuve, c'est que dans les gens qui regardent le sport automobile à la télé, il y a autant de jeunes que de gens un peu moins jeunes, autant d'hommes que de femmes pratiquement. Donc il ne faut pas non plus tout mettre sur les jeunes et sur la vitesse. C'est un débat aujourd'hui qui, à mon avis, est un peu faux. Tout à l'heure, on parlait de karting. Je préférais voir mes enfants faire du karting, faire un petit peu de course automobile, à la limite, ça leur donnerait une expérience que les jeunes aujourd'hui, uniquement par le permis de conduire, ne peuvent pas avoir. Donc, sincèrement, je ne le pense pas personnellement, mais je peux me tromper.
Dans le même ordre d'idée, et même s'il y a un monde, et c'est très bien comme ça, entre la route et puis la piste et, ou les circuits, j'ai plusieurs messages là de gens qui vous demandent, parce qu'ils estiment que vous avez quand même un point de vue intéressant, que pensez-vous globalement des dernières mesures qui sont prises concernant la sécurité routière? Alors sur SMS, sur Internet, ça va, des radars automatiques, les limitations, etc. Vous, pilote, comment est-ce que vous jugez ça? Comment vous comportez-vous personnellement, demande-t-il, quand vous êtes au volant de votre voiture?
Je ne pense pas qu'on puisse avoir un jugement de pilote. Si on est obligé d'avoir un jugement
de citoyen,
quotidien, puis qui regarde bien entendu les choses peut-être d'une manière un peu différente. Je ne crois pas qu'on puisse critiquer en bloc une mesure qui a permis de sauver beaucoup de vies. Ça, je pense que c'est pas défendable. Maintenant, d'un autre côté, je me dis que si on en est arrivé là, c'est que c'est quand même un vrai constat d'échec depuis des années et des années, si c'est la seule manière d'arriver à limiter les vies, les accidents, pardon. Je pense quand même que aussi plus on ira dans ce sens-là, et je pense que si on exagère, et je pense qu'on risque aussi d'exagérer, on ne va rien faire sur la formation, et qui est quand même un élément aujourd'hui, à mon avis, fondamental, qui est un élément qui vient en complément de ce qui est fait. Si la répression marche, il faut pas l'arrêter, mais je crois qu'il faut aussi penser à la formation. Et encore une fois, c'est pas parce que vous ferez rouler quelqu'un à 90 à l'heure sur la route qui ne risquera pas d'accident. Il y a aussi, tout à l'heure je parlais de l'alcool, des drogues pour les jeunes, etc. Je serai aussi beaucoup plus strict là-dessus. Il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais c'est un peu triste aussi de voir, que ce soit pour des gens comme moi ou d'autres, de plus pouvoir rouler. C'est pour ceux qui sont des grands professionnels de la route. Et je pense que ça aura des incidences économiques à terme qu'on peut aussi envisager.
Alain, quelque part en Allemagne, j'y peux rien, ils appellent ce soir, bon, moi je donne le prénom, l'endroit, où êtes-vous en Allemagne, Alain?
À Neuenburg am Rhein.
Oui, bonsoir, j'ai bien fait de dire quelque part en Allemagne. On vous écoute.
Oui, bonsoir, monsieur Prost. Je m'excuse de revenir sur un moment difficile de votre carrière professionnelle. Je suis fan d'Alain Prost, je vous ai suivi dans toutes les courses, etc. Et après ça, vous avez décidé de montrer votre propre entreprise. Et ça n'a pas marché. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez vécu personnellement, je le mets entre guillemets, la chute de Prost Grand Prix. Merci.
Bah, je l'ai vécu très très mal. C'est évident parce que je voyais très bien depuis assez longtemps que ce serait extrêmement difficile. On était dans un contexte de toute façon compliqué. Il y avait en plus de tout le contexte qu'on ne va pas détailler ici, la crise économique, le 11 septembre, l'arrivée des grands constructeurs en masse, donc c'était vraiment extrêmement complexe. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple qui est quand même parlant, dans le sport automobile en France, c'est extrêmement difficile de trouver, mais vraiment le moindre petit sponsor pour les jeunes, pour des moins jeunes, pour des écuries. Donc trouver des sommes aussi importantes, même si en trouvant des sommes importantes, ce n'est toujours que 10% des budgets des grands constructeurs, c'est évident que c'était un échec. Mais j'ai vécu ça d'une manière, ça m'a beaucoup attristé la manière dont a été évoquée cette fin de cette écurie, le fait de ne plus avoir d'écurie aussi française. J'en étais touché très très personnellement. Je suis en train de me remettre, mais je vous avoue que ça a été vraiment. Ce sera de toute façon dans un certain cadre quelque chose que je n'oublierai jamais.
Fabrice, il y a une constante en Formule 1. Comment vous expliquez que les grands pilotes n'aient jamais connu la réussite en tant que patron? On peut citer Stewart, on peut citer Lauda, Fittipaldi, vous en l'occurrence, même là si vous venez d'expliquer en partie pourquoi. Est-ce qu'il y a une explication quand on passe de pilote à patron?
Oui.
Parce que quand vous êtes pilote, vous êtes plutôt assisté, chouchouté. Là, quand vous êtes patron, vous êtes obligé de prendre des responsabilités.
Je crois que les responsabilités, en fin de compte, elles ne sont pas si différentes. Elles sont différentes dans la mesure où Bon, là, je peux parler, bien entendu, de mon cas personnel. Je peux pas parler des autres qui sont d'ailleurs différents, puisque ce qu'il t'a dit, il avait une écurie au Brésil, Stewart en Angleterre, mais complètement financé par Ford dès le départ, donc il a jamais eu de vrais problèmes budgétaires. Nous, dans une écurie basée en France, vous pouvez vous imaginer les problèmes que ça peut poser, ne serait-ce que les charges, etc., qui sont quand même extrêmement, extrêmement compliquées. Quand vous êtes en France, et moi je l'ai vécu d'ailleurs surtout à la fin de l'écurie, quand vous, les sponsors, ils sont pas français, ils sont tous internationaux, ils sont notamment de base anglo-saxonne, il faut pas rêver. Quand il y a eu, par exemple, les 35 heures sans entrer dans une polémique stérile aujourd'hui, vous ne pouviez même plus parler à un sponsor étranger, un sponsor américain. Déjà, on avait l'image de la Formule 1 ne peut pas être gagnante dans un pays comme la France. Et en plus, on mettait 35 ans, de toute façon, ils ne mettraient jamais l'argent dans une écurie comme ça. Donc, c'est tous des contextes qui font que c'est difficile de comparer. On veut toujours avoir des explications à tout. C'est vrai qu'il y a eu 4 cas différents, mais bon, il y a eu Jack Brabham, il y a eu Bruce McLaren à l'époque, il y a eu des gens qui ont... Ceux qui ont réussi, c'est souvent des gens qui ont commencé depuis très très longtemps, qui ont suivi l'évolution. Nous, on arrive dans des périodes et il faut tomber vraiment au bon moment avec les bonnes personnes, et c'est pas évident. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a une telle jalousie quand vous avez été un peu, quand vous avez eu un peu de succès, et c'est pas typique de la Formule 1, hein. Je veux dire, vous le voyez dans tous les autres sports, dès qu'un sportif qui a bien fonctionné se met dans un autre domaine, on lui tire un boulet rouge dessus. Il faut qu'il ait réussi vraiment pour qu'il ait vraiment de la considération, et c'est un peu dommage.
Fabienne Avane en ligne, bonsoir Fabienne.
Oui, bonsoir, je suis un petit peu intimidée. Alors je voulais dire que j'ai un an de moins qu'Alain Prost, et moi j'ai été commissaire de piste pendant des années et des années, et j'ai suivi Alain Prost depuis le tout début, quand il était en formule de promotion, jusqu'à la fin, les courses de la fin. J'ai vu aussi courir à l'étranger. Moi, c'est un pilote que j'admire beaucoup, et ses choix professionnels étaient peut-être un petit peu discutables, mais j'ai suivi, j'ai trouvé ça très courageux. C'est tellement beau la F1. J'aurais qu'un regret, c'est que j'aurais bien aimé le voir plus souvent courir en rallye. Je sais que c'est pas toujours possible, pas rallye sur glace, mais des rallyes sur terre. J'avais l'occasion de vous voir, mais vous aviez abandonné, je crois, assez tôt dans un rallye du Var, en 82 ou 83. Et puis je trouvais que, parce que le rallye, pour moi, c'est aussi une façon de voir un style différent de conduite. Et puis quand on aime beaucoup voir les pilotes piloter, justement, j'aurais voulu vous voir un peu plus souvent sur des rallyes. Voilà.
Bah écoutez, j'en ai fait un, vous avez raison, c'était en 82, j'en ai fait qu'un d'ailleurs, Rallye du Var, et c'était une expérience formidable, mais bon, malheureusement, vous savez, dans la course automobile, on peut pas tout faire, c'est une question de temps, et c'est une discipline extrêmement prenante aussi, mais maintenant je suis un peu vieux pour le rallye, je crois.
Un dernier appel peut-être, ou avant-dernier, Yvan dans l'Essonne, qui patiente au standard depuis 5 minutes, bonsoir Yvan.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel, et félicitations à Alain Prost pour sa carrière. La FIA cherche, je pense, en vain des solutions de règlement pour limiter et niveler les performances des F1, au moins par l'électronique. Elle n'y réussit pas, confère ce qui s'est passé cette année sur l'antipatinage, où elle a rebroussé chemin en cours de saison pour renoncer finalement à l'interdiction de l'antipatinage. Que pense Alain Prost d'une éventualité qui serait la fédération impose non pas un règlement, mais un matériel imposé. Par exemple, un limiteur de régime, ou un boîtier de contrôle électronique, moteur ou boîte de vitesse.
L'idéal, c'est le boîtier électronique qui puisse contrôler énormément de paramètres et bien entendu contrôlable par la fédération. C'est la seule solution parce que pourquoi la FIA est revenue l'année dernière, c'est simplement parce que vous avez des centaines d'ingénieurs par équipe contre deux, trois ingénieurs qui sont d'ailleurs très bons à la FIA, mais seulement 2-3, et ils font pas le poids, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas contrôler tout ce qui se fait, sans parler de tricherie, mais vous savez, on est toujours, on lit entre les lignes des règlements, donc le boîtier électronique, le problème, c'est que les constructeurs sont là, comme je le disais au début, pour montrer à tout le monde qu'ils ont une meilleure technologie, qu'ils ont une meilleure performance, et si on leur impose des boîtiers électroniques, ne serait-ce que ça peut les faire partir de la Formule 1, et c'est pas le but aujourd'hui.
Tout dernier appel, Thomas, en Belgique, il nous reste une minute. Bonsoir Thomas.
Bonsoir à tous, bonsoir Alain Prost. Pourquoi, quand vous avez repris l'écurie Ligier, ne pas avoir conservé le moteur là qui, vous avez pu l'expérimenter, marchait pas mal du tout?
Ben écoutez, c'était une possibilité. Alors là, pour la première fois que j'ai discuté avec eux, je voulais absolument un contrat de 3 ans. et eux, ils avaient simplement un contrat qui courait jusqu'à la fin de l'année, donc je ne pouvais pas m'engager à racheter l'écurie sans avoir la sécurité d'avoir moins de 3 ans de contrat. Et après, avec tous les partenaires français, tout le monde voulait que ce soit un moteur français, donc Peugeot, et c'était le projet justement français. Au bout de 3-4 mois de collaboration, j'ai eu des contacts avec Honda pour revenir avec eux sur un projet de 5 ans. Malheureusement, j'avais déjà signé le contrat à Peugeot et je ne voulais pas casser ce contrat. Et ce jour-là, je pense que c'était peut-être une erreur.
Une date ou deux dates, Fabrice, pour terminer, puisqu'on parlait du trophée Andros. Ça commence quand? On a parlé d'hiver.
Il y aura 7 courses au total. Oui. La première à Val Thorens les 6 et 7 décembre. La super finale au Stade de France le 7 février.
Alain Prost, merci. 20h dans quelques instants. Bonsoir à tous. À demain en direct au téléphone sonne.
C'était le téléphone.